le mois dernier, je vous avais parlé de la joie du guerrier. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui s'en souviennent un petit peu, au moins du titre, la joie du guerrier? Ouais, un petit peu? Ouais. Bon, je vais faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas là, et puis de toute façon, ben, c'est vrai qu'on oublie un petit peu au fur et à mesure que le temps passe, mais je suis là pour vous rappeler les choses. Alors, avant de commencer, je vais prier si vous voulez bien. Merci Seigneur pour ta présence parce qu'on a besoin de toi. Je le dis tellement souvent, mais on a tous les jours besoin de toi. On a besoin de toi pour avancer dans la vie. On a besoin de toi pour intercéder pour nos frères et sœurs qui en ont besoin. On a besoin de toi pour que nos yeux s'ouvrent, pour que notre cœur s'ouvre. On a besoin de toi pour avancer sur le bon chemin et ne pas se tromper. On a besoin de toi pour que tu nous réveilles. Amen. Alors, le résumé de l'épisode précédent, ça fait un petit peu comme dans les téléfilms, hein, donc on avance ensemble. Nous sommes un peuple de guerriers. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est noté quand même qu'on est un peuple de guerriers. On voit par exemple en 2 Corinthiens 10 au verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Alors on parle ici de combattants. Et ce sont les soldats, les résistants, les guerriers qui livrent le combat. Et il nous faut nous former afin de devenir les guerriers que l'Éternel attend. Nous manquons d'enseignement à ce sujet. Actuellement, au vu de notre enseignement et notre environnement, nous pouvons être perçus comme un peuple de chrétiens, non pas guerriers, mais plutôt bisounours. C'est-à-dire que nous sommes loin d'être formés au combat. Rappelons-nous ce qui est dit dans Osée 4 au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est donc important que nous ayons cette connaissance dans ce domaine aussi. Le visible et l'invisible, c'était le sous-titre de ce premier épisode. L'invisible a créé le visible, c'est-à-dire que la parole de Dieu a créé le monde. Ok ? Ça, c'est bien ancré. Hein? Et il y a des puissances que nous ne voyons pas, mais qui sont bien là et qui sont bien à l'œuvre. Et la guerre est donc déclarée, comme nous le rappelle Apocalypse 12, au verset, je vais lire uniquement le verset 12. Je vais lire juste la fin. « Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et ça, c'est pour planter le décor de cette deuxième partie. Et c'est bien parce que l'adversaire est dans une grande colère qu'il y a une bataille qui se livre. Hein? Mais, je ne vais pas aller trop vite, on va aller voir ça ensemble. L'adversaire de Dieu et son armée. Alors, on peut tous nommer assez facilement, hein, sans difficulté, on peut tous affirmer que l'adversaire, c'est Satan. Jusque-là, ça va, c'est marqué dans la Bible, il n'y a pas de souci, on est d'accord là-dessus. Et Satan, ça vient du grec Satanas, qui veut dire adversaire. On n'a rien inventé quand on parle de l'adversaire ou de Satan, on ne se trompe pas, c'est le même mot. L'autre terme qui est parfois employé, c'est Lucifer, qui signifie porteur de lumière. C'était un chérubin, un type d'ange qui est associé au service de Dieu. Et les chérubins font partie d'un ordre d'anges associés au service de Dieu qui garde la sainteté de la lumière, de la gloire de Dieu. Donc ça, je recite ce qui est dans le livre de Jérémie Potin qui me sert de base pour cet enseignement. Donc, ça, c'était à la page 25 pour ceux qui voudront y aller voir dans ce livre qui s'appelle « Le combat spirituel ». Alors, on peut citer, bien sûr, Ézéchiel 28, versets 14 et 15. Ézéchiel 28, j'ai beaucoup de versets, donc je suis désolé. je vais le lire autrement, si tu n'arrives pas à l'afficher, c'est pas très très, pas très très grave. Ézéchiel 28, versets 14 et 15. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, et attention, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc là, il explique bien qui est Satan, comment il a évolué et qu'à un moment donné, l'iniquité est venue le saisir. Satan, c'est donc un ange déchu parce qu'il a voulu être plus fort et il voulait être au-dessus de Dieu. Son orgueil l'a fait chuter. Et il a été envoyé sur terre, et on peut citer Ésaïe 14 au verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc Satan était un ange, ou plus exactement un chérubin, il était protecteur et gardien de la lumière. Satan, il avait la connaissance parfaite de la parole, de la lumière de Dieu, on peut dire, puisque c'était lui qui était chargé de garder cette parole et cette lumière. Comprenez bien. Donc il avait cette connaissance parfaite. Et il utilise sa connaissance pour nous tromper par ruse. Je le remets pas là, mais on se souvient de ce qui s'est passé avec Adam et Ève, comment il procède. Hein ? Il a cette connaissance parfaite. Et de par sa nature d'origine céleste, il a une force et des pouvoirs particuliers. Alors, j'ai envie de vous citer ce passage de la Bible, bien sûr, sur la tentation de Christ, qui nous montre bien aussi cette puissance et cette connaissance qu'a Satan. C'est pour planter le décor, on a besoin de se rafraîchir la mémoire. Donc, Luc 4, au verset 5 et 6. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Pour donner une puissance, il faut l'avoir. Et la gloire de ces royaumes. Ah oui, il est sur la terre. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. La puissance de Satan est sur la terre, sa puissance est sur le monde. Et il nous faut prendre au sérieux cette guerre. Ah, c'est pas pour rien qu'il est dit qu'il faut résister au diable. Je me permets de citer Jacques 4 au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut résister au diable. Donc, c'est là aussi, je quitte mes notes, mais si on doit résister, il y a une action là, il faut faire quelque chose, résister. C'est pas je reste dans mon fauteuil, cool, moi je crains rien, tout se passe bien, waouh. Résister, c'est un avertissement qui est dans la Bible. Dans 1 Pierre 5 au verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pas juste. Si c'est marqué dans la Bible, c'est que ça a une utilité. Hein, on est bien d'accord. Tout ce qui est marqué dans la Bible est utile. Il ne faut pas se tromper. L'adversaire, comme son nom l'indique, c'est Satan. OK ? Faut pas le chercher ailleurs. Je me souviens de Vincent Fernandez, un pasteur qui est venu fin 2020, qui nous disait, ne cherchez pas dans vos frères et sœurs des ennemis. OK ? On peut ne pas être d'accord, on peut avoir des différends, On peut vivre des choses différemment, on peut avoir des conceptions différentes, on peut avoir tout ce que vous voulez, mais ne cherchez pas dans vos frères et sœurs des ennemis. Et même ça, c'est pas simple. Alors, donc, on a vu l'adversaire de Dieu et son armée, mais maintenant, il y a l'armée que nous sommes et notre chef, Dieu. Dans la Bible, nous retrouvons régulièrement cette expression « l'Éternel des armées ». On le trouve aussi dans certains chants, d'ailleurs. « L'Éternel des armées » ou « le Dieu des armées », comme par exemple dans Osée 12, au verset 5. « L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. » En certaines traductions, il est rajouté « Yahweh ». Yahweh, Sébaoth. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais c'est marqué comme ça. Hein? Ou Yahvé Sabaoth, l'Éternel Tout-Puissant. Dans 1 Samuel 4, on l'a déjà entendu il n'y a pas longtemps, hein, l'histoire de Samuel avec Daniel, qui nous a parlé de ce passage de la Bible, et j'attends avec impatience la suite que tu vas nous apporter. On en a besoin. Donc dans 1 Samuel 4, qu'est-ce qui se passe? Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Et préciser qui siège entre les chérubins, c'est, on reparle encore de l'Éternel des armées. Dans Isaïe 54, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Alors, nous sommes au service de Dieu et nous faisons donc partie de son armée. Nous avons différentes missions à accomplir pour le servir. Il y en a qui se disent, oui, mais non, moi, j'ai pas signé, engagez-vous qui disait, mais j'ai pas signé pour rentrer dans l'armée. Ça faisait partie du contrat. Bon, on continue. La puissance de Dieu est sans égale car il est le Créateur. Amen. Ok, on a choisi quand même le bon camp. Pour ceux qui ont traîné un petit peu du côté de chez l'adversaire, du côté des ténèbres, on voit bien que du côté de la lumière, on est du côté du bon camp. Hein? Et Dieu est sans égal. On le chante d'ailleurs, hein? Je crois qu'il y a des chants aussi, hein? Dieu est sans égal. Hein? Et c'est important de le préciser. Alors lorsqu'on a accepté Jésus dans notre vie, c'est là que ça commence, et qu'on s'est fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ben, il s'est passé plusieurs choses. La première, nous devenons le temple de l'Esprit, et l'Esprit de Dieu, qui est une personne, vit en nous. On est au clair là-dessus, c'est clair? Ok? Vous pouvez vous le dire à vous-même, je suis le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez regarder votre voisin et dire, mais toi aussi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et il vit en toi. On le sait, mais il faut vraiment le réaliser dans notre cœur. Alors, il y a plusieurs choses. La deuxième, c'est que l'adversaire, ben, du coup, il vous identifie comme un être en phase de réveil spirituel, et donc un ennemi potentiel. Mais nous, notre force et notre autorité vient de l'Esprit qui vit en nous. On l'a dit tout à l'heure dans l'épisode 1, on ne se bat pas avec nos forces charnelles, c'est spirituel. Et Jésus nous dit en Jean 16, au verset 33, c'est sympa parce que Jésus, il prend soin de nous. Alors il nous prévient, il nous explique les choses. Et il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Des fois, vous n'en seriez pas rendu compte. Il nous le dit. Mais prenez courage. Et pourquoi ? Parce que j'ai vaincu le monde. Je vous lis Matthieu 28, versets 18 à 20. Il y a beaucoup de passages de la Bible, mais je pense que c'était important aussi que ce soit bien ancré et fondé dans la parole. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné. » J'insiste là-dessus. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Tout ce qui est dans la parole. « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » On n'est pas tout seul. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, on a cette assurance. Il est avec nous. On n'est pas tout seul pour livrer le combat. Heureusement. Alors, de quel combat s'agit-il ? Alors, on vient de voir que Jésus a vaincu l'adversaire, le diable, il l'a vaincu à la croix, ok ? Ça, j'ai pas besoin de le repréciser, c'est bien ancré chez nous, hein ? Il a triomphé sur lui, ok ? Le diable n'a donc plus d'autorité. Ça, c'est clair, le diable n'a plus d'autorité. Mais il reste pour un temps le roi de la terre. Parce que on n'est pas arrivé tout à fait à la fin des temps. Donc il a encore sa puissance, là, sur terre, pour un temps. Et d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure dans Apocalypse, ses jours sont comptés. Et du coup, voilà, il sait que le temps est compté. Lui, il est bien au courant. Il connaît la parole, il connaît la lumière. Alors son but de l'adversaire, c'est de pervertir le plus d'âmes possible. Il souhaite amener les personnes vers la perdition. Tout le monde. Ceux du monde. Mais s'il peut réussir à faire chuter quelques chrétiens, c'est la cerise sur le gâteau. Si je puis me permettre. Et sa méthode pour y parvenir, toujours la même, la ruse. Alors, que nous dit en 2 Corinthiens 2 au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il faut bien comprendre comment il fonctionne. Il ne faut pas se laisser avoir. Il ne faut pas se laisser endormir. Ce qui est un peu d'ailleurs notre problème dans notre société occidentale, c'est l'endormissement. Je ne vous apprends rien, je l'ai déjà dit, je le redis assez souvent. On a besoin d'être réveillé. On pense que tout va bien, mais ça ne va pas si bien que ça en Occident. Ça ne va pas si bien que ça. On a en France, en tout cas, une certaine sécurité. On pense se sentir suffisamment à l'aise, mais ça contribue à nous endormir. Qu'est-ce qui se passe dans les pays persécutés ? Il n'y a jamais autant de conversions dans les pays persécutés. Certains même, des personnes persécutées, disent « Ne demandez pas que la persécution s'arrête. » Ils vivent des choses formidables. Moi, quand j'entends ça, ça me bouleverse. Je me dis « Mais comment est-ce qu'on peut dire ça ?» Nous, forcément, quand on prie, on dit « Mais arrête la persécution, Seigneur, interviens !» Et ils nous disent le contraire. Et quand ils prient pour nous, ils disent « Mais on prie pour vous pour que votre persécution silencieuse, qui est l'endormissement, pour que vous puissiez vous réveiller. Ils prient pour nous alors qu'ils sont persécutés. Et ce combat est un combat spirituel. En 2 Corinthiens, je le redis une deuxième fois, en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Les forteresses. On va y revenir. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » C'est très important ce qui est dit là. « Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tout un programme dans ce verset, dans ces versets. Le diable, il cherche non seulement à garder sous sa coupe le monde, le voit, et ceux qui y vivent, bien sûr, il veut aussi nous affaiblir, nous rendre inoffensifs, voire nous anéantir. Mais déjà, nous rendre inoffensifs. Si on est endormi, on ne va pas trop le gêner. Il nous chante une petite berceuse. Alors, je reviens sur ce texte de Corinthiens. Il nous parle de renverser les forteresses. De quoi il s'agit, de ces forteresses? Là, j'ai repris un petit passage du livre du combat spirituel de Jérémie Potin. Je vais prendre juste quelques petites parties parce qu'il y a besoin des explications sur ces forteresses. C'est quoi ces forteresses? C'est un faux raisonnement, une pensée qui se dresse contre Dieu et ses principes spirituels. Il faut se rappeler que l'adversaire, sa façon d'intervenir, c'est la ruse. Donc, il va chercher à mettre en nous, nous instiller des faux raisonnements. Et ces faux raisonnements deviennent des forteresses, parce qu'on s'accroche à ces faux raisonnements. Le mot forteresse en grec peut être utilisé, semble-t-il, je ne connais pas le grec, mais je fais confiance c'est au sens figuré d'un faux argument. Ça peut également être traduit par toute chose sur laquelle on s'appuie. On peut s'appuyer sur des faux raisonnements. Il précise, l'origine de ce mot grec est un dérivé d'un autre mot grec qui peut être traduit par détenir ou partage de propriété. Alors, par manque de connaissances et d'enseignement, on peut construire ces forteresses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que souvent, on précise, quand on reçoit une parole, on nous dit à chaque fois d'aller voir ce que dit la Bible par rapport à cette parole qu'on a reçue. Hein? Donc il faut vraiment être vigilant et le faire. Parce que il faut être sûr qu'on ne va pas construire une forteresse sur quelque chose qu'on va recevoir, mais qui serait faux, qui serait un mauvais enseignement. Il faut être vigilant. Et parmi toutes les forteresses qui ont pu se construire petit à petit, c'est tout un tas de faux raisonnements, de pensées qui vont à l'encontre de ce que la Bible nous dit, de ce que Jésus nous demande. D'ailleurs, quand Jésus, je le disais tout à l'heure, il nous dit « Allez de part vers le monde et vous baptiserez pour apporter la parole et vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est Jésus qui le dit. Il a envoyé de telle sorte à ce que ça... pour faire des disciples, qui eux-mêmes vont faire des disciples, pour faire la même chose. On est d'accord. Si vous avez accepté Jésus dans votre vie, c'est pour devenir disciple de Christ. OK ? Donc, si vous êtes disciple de Christ aujourd'hui, c'est aussi pour pouvoir annoncer la parole. On est toujours OK. Ça marche ? Et pourtant, il y a des forteresses qui, une voix comme ça, qui vient et qui vous dit « Non, mais c'est pas à toi de faire de l'évangélisation. Non, laisse ça au pasteur, à ceux dont c'est le ministère. Hein ? On va pas tout faire non plus. Chacun son job. C'est une forteresse. Qui es-tu pour oser parler de la Bible et du Seigneur ? Cela me cause particulièrement. Il se marre déjà. Ouais. T'es pas légitime. T'es pas légitime. Que je me disais à moi-même. Et peut-être que certains d'entre vous se disent ça aussi. Hein ? T'es bien mal placé vu ton histoire et ta vie pour parler de la Bible. Ça parle peut-être à quelques-uns là. Je dis ça, ben non. Je suis sauvé, c'est déjà bien. Déjà, c'était du boulot. Déjà, je suis content, je suis sauvé. Ouh, c'est génial. Tant mieux. Pour le reste, non. De là où je viens, je préfère me taire. Non. 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 Ce sont des forteresses. Ah, tu pries pour la guérison et personne n'est guéri. Donc, tu n'as pas d'autorité pour le faire, il faut arrêter. Ben non, faut continuer. T'as pas d'autorité, t'es pas légitime. On peut en rajouter. Hein, réfléchissez un petit peu à toutes ces petites voix qui vous disent à longueur de journée tout ce que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'êtes pas tout un tas de choses. Si. On a un héritage. OK ? On est fils et filles du Dieu très haut, de l'éternel. OK ? On a un héritage. Et en plus, on est le temple du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est pas rien. Il faut qu'on active tout ça. Notre autorité et notre force, eh bien, elles viennent de celui qui nous l'a donné. Hein ? Alors, oui, je le disais déjà tout à l'heure, mais je le redis, on doit veiller afin que ce que nous croyons est basé bibliquement. Parce que on a des certitudes, on en a tous, de par notre éducation, de par tout un tas de choses, hein, notre environnement, notre société, on a tout un tas de certitudes. Eh bien, il faut vérifier si elles sont vraiment basées sur la parole, si on ne se trompe pas. De temps en temps, ça peut être bien aussi, cette interaction entre frères et sœurs, et se dire, ah oui, tiens, au fait, tu dis ça, tu as l'air d'être ferme dans ce que tu dis, mais est-ce que c'est... Et des fois, ça peut être bien de retourner à la Bible et puis de se dire, est-ce que c'est basé bibliquement, ce que je pense. Il ne faut pas se laisser enfermer dans une forteresse. En l'occurrence, dans plusieurs. Parce que du coup, ben, on n'avance pas. La ruse, il agit par la ruse pour nous enfermer dans les forteresses. Alors, première étape peut-être dans le combat spirituel, ne nous laissons pas aveugler. Ce qui n'est déjà pas évident quand on sait qu'on est déjà endormi, il ne faut pas se laisser aveugler non plus. Il y a du boulot, hein ? Bon, heureusement qu'à chaque fois qu'on demande au Seigneur, il nous aide. Sinon, tout seul, on ne va pas y arriver. Hein. À 2 Corinthiens 4... Au verset 1 à 7. Oh, je vais le lire quand même. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Ça nous dit dans quelle attitude on peut être, où il nous faut être. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. On s'écrit d'une certaine manière, je ne sais pas quelle version tu as mis, c'est écrit la même chose peut-être là. Enfin, bon, ouais. C'est la version Louis II. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, donc Dieu avec un petit d, l'adversaire, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, endormi, aveuglé, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je continue avec Philippiens 4, verset 8. Ça va, vous me suivez toujours? Ça marche? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que dans nos pensées, il faut faire du ménage, me semble-t-il, en tout cas chez moi. Faire le ménage. Soyons acteurs de notre marche avec Christ. Recherchons son cœur et son amour. Et je peux dire que si on recherche son cœur et son amour, c'est la priorité. Eh bien, sa force et son autorité s'activera en nous. Alors on ne le fait pas pour ça. C'est le deuxième effet qui se coule. C'est le plus. Il nous faut rechercher vraiment cette proximité avec l'Esprit Saint qui vit en nous. Il faut vraiment prendre du temps pour découvrir qui est le Saint-Esprit qui vit en nous. Prendre du temps pour le laisser agir. Comme je l'avais dit il y a quelques années, ne pas l'enfermer dans un placard, le Saint-Esprit, parce que c'est souvent ce qui se passe. On l'appelle et lui, il tape derrière la porte en disant « Hey, je suis là, ouvre la porte !» Et nous, on ne l'écoute pas, on ne l'entend pas, on fait comme s'il n'était pas là. Donc il faut vraiment rechercher le cœur de Dieu, avoir cette proximité, cette intimité avec lui, la développer jour après jour. On vit dans un monde où on doit aller vite, faire beaucoup de choses, on doit penser à beaucoup de choses, on a tout un tas d'activités. Mais il faut, ce qui peut parfois être bien, je ne sais pas, je ne veux pas dire, mais il faut en priorité chercher la face de Dieu et pas forcément la main qui donne. Hein, c'était, je ne sais plus qui avait dit ça, je me souviens, c'est, hein, toi, entre autres. Hein, tu, ah bah oui, aussi. c'est tellement important. C'est tellement important. Quand on est jeune converti, quand on a des besoins, de toute façon, on appelle. Et il nous le dit, Jésus, demandez-moi, ouvrez votre bouche. Ok. Il faut continuer à le faire. Mais parallèlement, il faut aussi chercher le cœur de Dieu pour pouvoir être renforcé, pour pouvoir découvrir tout ce que nous ne voyons pas, qu'on rentre vraiment dans tout ce qui est, j'allais dire, invisible à nos yeux, que ce soit vraiment notre cœur qui le ressente avec lui. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais on va bientôt avoir les 3 jours de jeûne et prière. Et l'idée, c'est d'être à l'écoute de l'Esprit. C'est de pouvoir aller plus haut avec lui, avec l'Esprit. C'est passer du temps, non pas pour faire un programme, une activité, que l'on fasse telle ou telle chose, non. C'est pour passer du temps avec lui. Apprendre à mieux le connaître, à nous approcher de Jésus. De l'Esprit. Et je vous invite autant que vous puissiez vous libérer, c'est à venir participer à ces temps de jeûne et prière, pour qu'on soit ensemble et qu'on puisse vivre ces temps ensemble pour le Seigneur et avec le Seigneur. Ok ? Petit résumé de ce que je viens de dire, en raccourci. Nous sommes les soldats de l'armée de Dieu et nous avons tous à participer à ce combat spirituel. Ne fuyons pas nos responsabilités. Je parle pour moi aussi. Rappelons-nous ce qui est dit dans Apocalypse 12:12. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. Nous devons nous appuyer sur la force et l'autorité que nous a donné Jésus. Et soyons acteurs de notre marche avec Christ. Recherchons son cœur et son amour, et sa force et son autorité s'activera en nous. On verra la prochaine fois ce qu'est l'équipement du guerrier, et on va continuer à avancer sur le sujet. Essayez de retenir au moins ce petit résumé. Nous sommes un peuple de guerriers, mais un peuple de guerriers dans la joie. Pour revenir à ce que j'avais dit la dernière fois, dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'on est du bon côté, on est avec la lumière. Et on l'a chanté, que cette joie reste en nous tous les jours de notre vie. Que nous ne soyons pas accablés, n'ayons pas peur de l'adversaire. Pourquoi ? Parce que Jésus a tout vaincu. Amen. Jésus a tout vaincu. On a à obéir à l'Éternel, à Jésus, pour avancer avec lui sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Alors Seigneur, merci. Merci de nous rappeler encore et toujours qui nous sommes en toi. Que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toi et nous sommes tout un peuple. Et on doit être soudés. Alors Seigneur, viens Seigneur, afin que nous puissions être soudés les uns aux autres, que nous puissions nous enrichir les uns les autres, que nous puissions nous regarder d'église en église, qu'on puisse se voir comme des frères et sœurs en Christ, et non pas comme des adversaires ou je ne sais quoi. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Alors vraiment, mets dans notre cœur vraiment cet amour les uns pour les autres. Fais-nous déborder d'amour, fais-nous déborder de ta lumière, Seigneur. Apprends-nous à mieux te connaître. Apprends-nous à pouvoir t'aimer davantage. Apprends-nous, Seigneur, à aller plus loin avec toi, plus haut avec toi, Seigneur. Fais-nous dépasser les montagnes, Seigneur, que nous ne soyons pas gênés par un plafond de verre qui puisse nous empêcher d'avancer plus haut avec toi, Seigneur. Libère-nous de nos forteresses. On a besoin de toi pour cela, Seigneur, afin que nos pensées ne soient pas captives dans des forteresses, dans des fausses croyances, dans des fausses doctrines, mais qu'elles soient basées sur ta parole, Seigneur. Alors viens nous éclairer, fais sauter les murs qui nous empêchent d'avancer. Et je proclame vraiment une grande libération sur ton peuple, sur notre église, sur cette église, mais sur les églises d'Angers, afin que nous puissions vraiment avancer tous ensemble avec toi, Seigneur. Tu bénis puissamment les églises d'Angers, Seigneur, afin que vraiment on puisse vivre tous ensemble des choses merveilleuses avec toi, que le temps s'accélère, que nous puissions vraiment voir ta gloire descendre sur nous. Amen.